RCF. RCF, il est 19h. Le journal, Clotilde Dumais.
Bonsoir à tous à la une de cette édition. Le début de la fin de presque 7 ans de cauchemar pour certaines victimes. La cour d'assises spéciale doit rendre son verdict après le procès lié aux attentats du 13 novembre 2015. Dans l'actualité également, l'établissement français du sang qui lance un bulletin d'urgence vital face à des réserves historiquement basses à la veille de l'été. Les cas de Covid-19 qui se multiplient et les tests de dépistage avec. Reportage à suivre à Montpellier. Et puis la galère de certains musulmans qui veulent participer au pèlerinage à la Mecque la semaine prochaine. Les fidèles devaient s'inscrire sur une plateforme unique, mais ils font face à plusieurs dysfonctionnements au moment de leur départ. ...330 avocats, 1800 parties civiles et près de 150 jours d'audience. C'est la fin du plus long procès de l'histoire judiciaire française. Le palais de justice de Paris est plein à craquer. La cour d'assises spéciale doit rendre d'une minute à l'autre son verdict contre les 20 accusés jugés depuis 10 mois pour les attentats du 13 novembre 2015. Les peines demandées par le parquet vont de 5 ans d'emprisonnement à la perpétuité incompressible, sanction la plus lourde du code pénal prévue pour Salah Abdeslam, le seul membre encore vivant des commandos terroristes. Mais au-delà des peines, c'est quoi qu'il en soit, une page qui se tourne pour de nombreuses victimes, Jean-Baptiste Labeur.
Pour certaines victimes, le procès a agi comme une étape dans la reconstruction. Sophie Parra espère ainsi laisser derrière elle le 13 novembre. Elle avait été grièvement blessée lors de l'attaque du Bataclan.
Une fois qu'on a fait tout le travail, pour ma part en tout cas, tout le travail physique, à me remettre de mes blessures, le travail psychique, même s'il n'est jamais vraiment terminé, il y avait vraiment ce côté de le procès, une fois qu'il sera terminé, ben ce sera terminé. Et ce sera peut-être vraiment l'occasion de laisser le 13 novembre derrière moi.
Arthur Desnouveaux, le président de l'association Life for Paris, est dans le même état d'esprit. Il se sent désormais capable de tourner la page.
Ça a été une telle coupure avec ma vie normale que j'en ai marre du 13 novembre. Et c'est un peu la première fois que j'arrive à le dire et à le penser. Et donc j'ai envie de passer à autre chose. Et j'ai l'impression que ce procès a peut-être cautérisé la plaie, au moins en partie. Et c'est sûr que pendant quelques mois, je vois bien que le 13 novembre va devoir passer au second plan parce qu'il a été tellement au premier plan pendant tellement longtemps que c'était un peu invivable.
Mais pour un grand nombre de victimes, il y a aussi la peur du vide, de l'après-procès. Life for Paris a annoncé sa future dissolution d'ici au 13 novembre 2025, une façon de donner un horizon et d'accompagner chacun le plus loin possible après ce procès et celui en appel qui suivra. Mais c'est aussi permettre de conjuguer le mot victime au passé, explique Arthur Desnouveaux.
Et je vous rappelle donc que les 5 magistrats de la cour d'assises spéciale doivent rendre leur verdict d'une minute à l'autre. Dans le reste de l'actualité, les suites de l'affaire PPDA, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles étend les poursuites de l'information judiciaire visant Patrick Poivre d'Arvor aux faits a priori prescrits, dénoncés par Florence Porcel. L'écrivaine accuse l'ancien présentateur de lui avoir imposé un rapport sexuel en 2004 et une fellation en 2009, ce qu'il conteste. Après son élection à la présidence de l'Assemblée nationale. Hier, Yaël Braun-Pivet conduit sa première séance au perchoir. Les députés ont aujourd'hui composé le bureau de l'Assemblée. 6 vice-présidents ont été élus. Élodie Jacquier-Laforge du Modem, Naïma Moutchou de Horizon, Valérie Rabault du PS, Caroline Fiat de LFI, Sébastien Chenu et Hélène Laporte du RN. Les députés viennent aussi de désigner 3 questeurs, Marie Guévenoux et Éric Woerth pour Renaissance, Éric Ciotti pour LR. Ils vont occuper un poste moins connu du grand public et pour pourtant assez important, comme l'explique Benjamin Morel, maître de conférence en droit public à l'université Paris II Panthéon Assas.
Les questeurs vont avoir les mains sur les finances de l'Assemblée nationale. Ce sont eux qui vont tenir les cordons de la bourse, qui vont jouer un rôle important, notamment dans le contrôle des dépenses des parlementaires. Ce sont eux également qui vont jouer un rôle dans l'orientation et le contrôle des services administratifs de l'Assemblée nationale. Donc ce sont des postes qui évidemment sont extrêmement demandés, tout bêtement, parce qu'ils vous offrent des moyens d'action au sein de la Chambre, dans l'organisation administrative de la Chambre, qui sont sans commune mesure avec les autres postes. En règle générale, qu'est-ce qui se passe? La majorité obtient la présidence de l'Assemblée, elle obtient 2 postes de questeur et l'opposition se répartit le reste, donc avec toujours un poste de questeur qui est de manière coutumière confié au plus important groupe d'opposition et au moins une vice-présidence, voire plus.
Et les 10 groupes parlementaires sont aussi officiellement constitués depuis hier soir. Le groupe Renaissance, ex-République En Marche, compte officiellement 172 députés. Avec le Modem et Horizon, le camp présidentiel réunit donc 250 élus, loin des 289 nécessaires pour avoir la majorité absolue. Les leaders de ces groupes parlementaires qui ont continué de défiler aujourd'hui à Matignon, la première ministre s'est entretenue avec le communiste André Chassaigne, l'insoumise Mathilde Panot et la représentante du Rassemblement national Marine Le Pen. À l'issue de ces consultations, Elisabeth Borne doit indiquer si elle demandera ou non un vote de confiance des députés. En attendant, elle était en visite ce matin au siège du planning familial dans le 11e arrondissement parisien pour défendre le projet d'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution. La porte-parole du gouvernement confirme la mise en place d'un chèque alimentaire de 100 euros pour 9 millions de foyers modestes. En déplacement près de Nantes, Olivia Grégoire a aussi précisé que le gouvernement travaillait sur un chèque alimentaire plus qualitatif pour accéder à des produits bio, frais et locaux. Le projet de loi sur le pouvoir d'achat doit être présenté en Conseil des ministres mercredi prochain. L'établissement français du sang lance un bulletin d'urgence vitale, le deuxième en l'espace de 6 mois, face à un niveau de réserve historiquement bas. À l'approche de l'été, Hervé Menrad, le responsable de la collecte et de la production à l'EFS, appelle les Français à se mobiliser.
Dans une situation très critique, avec une difficulté à reconstituer notre stock de poches de sang, qui nous fait craindre d'avoir des difficultés à répondre à toutes les demandes des établissements de santé pendant l'été. Et on est dans une période particulière au mois de juin, constitue toujours les réserves qui nous permettent de passer l'été. Et donc, il est obligatoire tous les ans de préparer cette période. Et on n'est pas du tout en ligne avec ce dont on a besoin pour répondre aux besoins des malades. Pour être à niveau, il faudrait qu'on soit autour de 110 000 poches de sang dans nos stocks. Et aujourd'hui, on est en dessous de 90 000. Il faut qu'on arrive à restaurer la situation avant le 14 juillet, puisqu'après, c'est beaucoup plus difficile de mobiliser les donneurs qui commencent à partir en congé. Et donc, il est extrêmement important qu'on restaure la situation d'ici là.
Et vous pouvez consulter la liste des points de collecte sur le site internet don200.efs.santé.fr ou sur l'application mobile don200. Ce n'est pour l'instant qu'une recommandation, mais jusqu'à quand, à la veille des premiers départs en vacances? Le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, appelle les voyageurs à de nouveau porter le masque dans les gares et les trains par sens civique, dit-il. Hier, la première ministre a aussi demandé aux préfets et autorités sanitaires d'encourager le port du masque dans les lieux de promiscuité et espaces clos, notamment dans les transports en commun. Plus de 147 000 cas de Covid-19 ont été comptabilisés hier soir. Alors forcément, le nombre de tests de dépistage repart lui aussi à la hausse. Exemple à Montpellier avec Nina Pavan.
Sur la place de la Comédie à Montpellier, le retour du Covid, on peut le voir par la longueur de la file d'attente devant la tente blanche des tests rapides.
Bonjour madame, vous venez vous faire tester aujourd'hui?
Oui.
Parce que vous êtes cas contact?
Non, pas déterminé encore, mais j'ai des symptômes qui pourraient être...
Par précaution donc.
Voilà.
C'est bientôt au tour de Kéliane, étudiante. Le masque, elle le remet parce qu'elle est cas contact.
J'avais déjà des masques chez moi de avant, mais j'en avais pas racheté.
Et vous le mettiez
Moi, je ne le mettais pas, non.
Ce matin, c'est Claire qui enchaîne les dépistages. Elle a à peine le temps de parler.
Moi, je suis que jusqu'à 13h30 et après, on me remplace jusqu'à 20h.
Et à l'intérieur aussi, c'est la course, comme l'explique Daniel.
Mai-juin, c'était un peu calme et maintenant, ça a repris. Il y a les tests qui ont repris, les autotests et les masques.
Et une vingtaine de patients faisaient encore la queue ce matin, place de la Comédie, pour se faire tester.
Un reportage de Nina Bavan. L'OTAN a formellement lancé le processus d'adhésion de la Suède et de la Finlande. La Turquie a finalement levé son veto, Étienne Pépin, après avoir obtenu des gages.
Elle avait trois principales exigences, la levée des restrictions des exportations d'armes vers la Turquie, un changement d'attitude vis-à-vis des groupes kurdes classés comme terroristes par Ankara et des extraditions de militants kurdes résidant en Suède et en Finlande. Sur ce dernier point, les Turcs n'ont pas tardé, ils réclament dès à présent l'extradition de 33 personnes appartenant au PKK et au FETÖ. Ils ont obtenu de Stockholm et de Helsinki la reconnaissance du PKK comme organisation terroriste. Les deux États candidats à l'OTAN sont-ils allés trop loin dans le compromis? C'est ce que dénonce en tout cas une partie de la classe politique suédoise. Mais la ministre des Affaires étrangères estime ne pas s'être couchée devant le président turc. Reste à espérer qu'Ankara ne retourne pas sa veste au moment où les 30 membres de l'Alliance transatlantique devront ratifier l'entrée de la Suède et de la Finlande. Sauf retournement de situation, cela pourrait être acté dès l'automne.
Et en tout cas, Emmanuel Macron a salué le consensus trouvé sur l'adhésion à l'alliance de la Suède et de la Finlande. Et puis l'Ukraine annonce par ailleurs avoir échangé avec la Russie 144 soldats, dont 95 qui étaient présents dans l'usine Azovstal à Marioupol. Perturbé après 2 ans de pandémie, le pèlerinage à la Mecque ne sera pas encore simple cette année pour de nombreux musulmans. Entre les dossiers en attente pendant des semaines, des paiements en ligne refusés et l'impossibilité de contacter les autorités saoudiennes pour obtenir de l'aide, certains fidèles sont un peu désorientés. Ceux qui souhaitent partir ont dû changer leur plan et passer non plus par des agences privées, mais par une plateforme unique mise en place par l'Arabie Saoudite pour les réservations. La maman d'Iman devait prendre l'avion ce matin, mais son vol est finalement reporté à demain.
On fait que pour ça, j'ai envie de dire, on fait que ça. On fait que checker tous les jours l'application pour voir si ça avance, si le statut a bougé. Après, c'était le paiement. En fait, à chaque étape, c'est du stress supplémentaire. Et surtout, ce qui est stressant, c'est qu'on ne sait pas si sur place ils vont avoir un guide. D'après ce que j'ai pu lire sur les retours d'expérience des gens qui sont sur place, il n'y a aucun guide, ils sont livrés à eux-mêmes. Et comme ma mère avait attendu 2 ans pour pouvoir enfin faire ce voyage, elle est très stressée, elle a vraiment peur d'être toute seule, de ne pas savoir faire ses étapes, parce qu'il y a des étapes obligatoires pour faire le pèlerinage et que personne ne puisse l'aiguiller ou qu'elle se perde. Donc elle n'est vraiment pas rassurée par tout ça. C'est un des 5 piliers de l'islam de faire son pèlerinage à la Mecque, et vu que ça représente un certain coût, il y en a qui économisent aussi pendant très longtemps pour pouvoir se l'offrir. Et c'est vraiment le voyage d'une vie. On croise les doigts.
Voilà le pèlerinage à la Mecque qui doit commencer en milieu de semaine prochaine. Et puis les exploits français à Wimbledon. Hugo Humbert a battu le finaliste de Roland-Garros et tête de série numéro 3, Casper Ruud, en 4-7. La française Caroline Garcia a sorti, elle, à domicile, la 11e mondiale, la britannique Emma Raducanu. Voilà, c'est la fin de cette édition. Belle soirée sur RCF.